Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, tout est une question de taille. Olivier Rey, vous avez écrit, publié un livre intitulé « Une question de taille ». C'est effectivement une question de taille qui vous préoccupe. Le titre est presque trop discret par rapport à ce dont il est question. Vous auriez pu choisir un terme qui aurait tourné autour des notions d'effondrement, de fin, de l'histoire, de catastrophe, d'apocalypse peut-être même, pourquoi pas. Je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de livres qui sortent sur ce thème depuis quelque temps. On sent qu'ils travaillent les gens et qu'il surgit. Alors, évidemment, il est très facile de penser immédiatement bande de millénaristes et de se retourner de l'autre côté. De fait, dans votre ouvrage, vous démarrez par un effondrement, ce n'est pas nécessairement celui auquel on aurait pu penser, c'est l'effondrement des deux tours de New York, du World Trade Center, dont vous dites qu'elles sont la marque d'un destin tragique, celui d'un malheureux architecte qui, pourtant, a été très aimé en son temps.
Ah oui, l'architecte du World Trade Center de New York s'appelait Minoru Yamazaki. Et si on avait fait appel à cet architecte pour construire le World Trade Center, c'est qu'il avait déjà un certain nombre de réalisations à son actif, dont la plus spectaculaire était un très grand programme d'habitation qui avait été réalisé 20 ans plus tôt, dans les années 1950, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce grand complexe d'habitation, qui était formé d'une trentaine de grandes barres, qui avaient été installées comme on le faisait à l'époque, sur un terrain qui avait été complètement nettoyé de toute autre présence. En fait, ce quartier qui a été présenté lors de sa réalisation comme étant le nec plus ultra du logement moderne, a très vite dégénéré. Au point que, au début des années 1970, il n'y a plus d'autre solution que de le dynamiter. Et ce quartier Pre-Taigo, pour citer son nom, à Saint-Louis, a été le premier grand programme d'habitation d'après la Seconde Guerre mondiale qui a été dynamité. Et il a ouvert la voie à quelque chose qui s'est beaucoup prolongé par la suite et on continue aujourd'hui de dynamiter un certain nombre de ces constructions d'après-guerre. Et donc, en fait, on s'aperçoit que, effectivement, quand on regarde l'œuvre de Minoru Yamazaki, on s'aperçoit que ses deux plus grandes réalisations ont vécu très, très peu. Bon, le World Trade Center, on le sait parce qu'il a été détruit par des attaques terroristes, mais son grand programme d'habitation avait terminé dans des explosions, mais qui, elle, là, était programmée. Et en fait, c'est le point de départ de mon travail dans la mise en cause d'une certaine difficulté que nous avons aujourd'hui à habiter le monde à des échelles. Enfin, je pense que ce qui a entraîné d'une manière ou d'une autre la destruction de ces édifices, c'est qu'ils étaient construits à la mauvaise échelle.
Alors, ce qui est très troublant, c'est que construits à la mauvaise échelle, certes, dynamiter très bien, il n'empêche, ça a continué. C'est-à-dire que cette mauvaise échelle dont vous parlez, ça n'est pas juste un cas d'école intéressant, mais de fait, c'est, comme vous le dites, l'ambiance générale dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Oui, vous avez dit en commençant que mon propos pouvait, avec quelques affinités, avec un certain nombre de discours peu catastrophistes. Mais ce dont je parle, c'est d'une raison particulière qui peut amener à des catastrophes, c'est des questions d'échelle. C'est le fait que, précisément, nous ne savons plus habiter le monde à la bonne échelle. Et donc, du coup, nous construisons un certain nombre d'édifices, mais nous mettons en place aussi un certain nombre d'organisations, etc., qui toutes pêchent par une échelle trop grande et qui, comme les colosses au pied d'argile, menacent toujours de s'effondrer à un moment ou à un autre.
Alors, on va peut-être préciser avant de poursuivre, Olivier Rey, que vous êtes mathématicien et philosophe. C'est donc avec cette double connaissance-là du monde que nous allons maintenant progresser et armé aussi d'un certain nombre de lectures très attentives que vous avez faites. Il y a Illich, mais on rencontrera peut-être aussi Günther Anders, Orwell, Léopold Kohr et un certain nombre d'autres. Et puisque vous parlez tout de suite de cette question d'échelle, on va peut-être commencer par resituer Illich, qui était un auteur extrêmement aimé, connu, intéressant dans les années 70 et qui a totalement disparu. Ses œuvres ont été en partie rééditées par Fayard il y a une petite dizaine d'années, mais je crois que la réédition ne s'est même pas achevée. Et je ne suis pas sûre que le succès librairie escompté ait été au rendez-vous.
Oui, alors Illich, c'est vraiment un grand personnage du XXe siècle qu'on commence à redécouvrir aujourd'hui. Quelqu'un qui est né en 1926 à Vienne, d'un père croate et d'une mère d'origine juive allemande. C'est quelqu'un qui, pendant la guerre, du fait de ses origines juives, a dû émigrer avec sa mère et ses frères en Italie. Son père est mort pendant la guerre. Il a terminé ses études en Italie. Il a ressenti à ce moment-là la vocation religieuse. Il est devenu prêtre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il est parti. C'était quelqu'un, un esprit extrêmement brillant, avec des facultés intellectuelles tout à fait hors du commun. Il est parti aux États-Unis, à Princeton, pour faire une thèse sur les manuscrits d'Albert le Grand qui étaient conservés à Princeton. Puis quand il a débarqué aux États-Unis, il est arrivé à New York, où on était en plein dans la vague d'immigration portoricaine. Il s'est promené dans le nord de Manhattan, dans les quartiers portoricains. Il a été absolument subjugué par ce qu'il a vu, l'intensité de la vie qu'il a découvert là. Ce qui s'est passé pendant qu'il était avec ses portoricains, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à l'époque, les États-Unis essayaient de mettre en place des grands programmes pour intégrer ces portoricains à la vie américaine. Mais c'était des programmes qui ne laissaient aucune autonomie aux personnes, puisque c'était finalement, on dessinait un cadre pour elle et la seule chose qui était demandée aux personnes, c'était de s'intégrer à ce cadre, alors que lui a toujours milité au cours de sa vie pour un développement endogène, c'est-à-dire qu'il fallait simplement donner les moyens aux personnes de construire par elles-mêmes leurs habitations, leur existence, etc. Et ça a vraiment été quelque chose de très important dans sa vie, parce que ça a été le point de départ ensuite de toute sa réflexion, de critique de l'organisation à grande échelle de la vie et où les individus ne sont plus appelés ensuite qu'à s'insérer dans les cases, alors que Illich est quelqu'un qui prend au sérieux l'idéal moderne d'autonomie, mais qui se rend compte que cet idéal d'autonomie ne peut pas passer par ces grands programmes, mais doit au contraire laisser beaucoup plus de latitude d'action aux personnes.
De fait, quand vous dites l'idéal moderne d'autonomie, on a presque l'impression d'entendre un oxymore, puisque, à vous suivre, Olivier Rey, la modernité a fait tout sauf inviter les humains à l'autonomie. Elle a plutôt tout fait pour les en priver de cette autonomie.
Bah, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Là, on rentre dans un grand concept d'Illich, qui est celui de contre-productivité. C'est-à-dire que pour rendre les gens plus autonomes, on a essayé de leur donner un certain nombre de moyens de le devenir. Mais quand on s'est lancé dans cette voie, on s'est mis à déployer de plus en plus d'énergie pour déployer ces moyens. Et le déploiement des moyens, à un certain moment, a pris le pas sur ce à quoi il devait servir. Et Illich, je vois cette chose-là se passer à peu près tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de problèmes. On imagine certaines procédures pour remédier à ces problèmes. Mais si on met en œuvre ces procédures à très grande échelle, en réalité, elles s'autonomisent. Et au lieu de servir à résoudre le problème de départ, elles se mettent à servir simplement leur propre développement. Et c'est ça le retournement dramatique qui peut s'opérer. C'est-à-dire que pour venir en aide aux gens, on met en place un certain nombre de mécanismes d'aide. Et puis ces mécanismes d'aide, au bout d'un moment, deviennent quelque chose qu'il faut servir au lieu qu'ils servent les personnes.
Alors Illich est parti d'exemples très concrets. Ce sont les transports, l'éducation, la médecine. Et de fait, lorsqu'il raconte et que vous reprenez des extraits de ses livres, il en a publié plusieurs. Il y avait la Némésis médicale, il y avait Une société sans école, ce qui était une mauvaise traduction, dites-vous, de l'anglais, puisque l'anglais disait déscolariser la société, ce qui est très différent. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce processus de contre-productivité.
Effectivement, le premier, je crois, qu'il a abordé, c'est celui des transports. Mais la voiture est un très bon exemple de ce que j'exposais auparavant. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a pas de voiture, tout d'un coup, l'apparition de la voiture augmente la faculté de mouvement des personnes et donc, on peut dire, augmente leur latitude d'action et donc va servir leur autonomie. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand la voiture se développe, quand les transports automobiles se développent, la société entière va se reconfigurer en tenant compte du fait que à peu près tout le monde est supposé avoir une voiture. Et à partir du moment où à peu près tout le monde est supposé avoir une voiture, eh bien, les commerces de proximité vont disparaître au profit de grands centres commerciaux suburbains. Les habitations vont être de plus en plus éloignées aussi des lieux de travail, des écoles, des hôpitaux, etc. Ce qui fait que la voiture, au lieu d'être quelque chose qui s'ajoutait à ce que l'on pouvait faire auparavant sans elle, va devenir une obligation pour réaliser les tâches les plus fondamentales de notre vie et devient pour énormément de gens, il devient absolument nécessaire d'avoir une voiture pour se nourrir, pour travailler, pour élever ses enfants, etc. Et à ce moment-là, il faut se mettre à beaucoup travailler pour être capable de se payer la voiture qui va permettre de vivre. Et pendant ce temps-là, ce qu'on pouvait faire auparavant avec ses jambes, enfin toutes les fonctions les plus élémentaires qu'on pouvait réaliser avec simplement
en marchant
ses jambes, parce que tout était à proximité, eh bien ça devient impossible. Et donc la voiture rend nos jambes à peu près impuissantes. Voilà. Et donc il n'y a pas eu une augmentation de nos possibilités, il y a eu un transfert de possibilités que l'on avait naturellement vers des nouvelles possibilités qui demandent en plus un investissement énorme. Et donc là, on voit la contre-productivité qui s'installe, c'est-à-dire que la voiture qui était là pour servir nos déplacements devient une obligation.
À quoi on peut encore ajouter que les temps de transport s'allongent à mesure que les années passent.
Ah ben ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que au XXe siècle, les vitesses de transport ont beaucoup augmenté, mais en même temps, le temps que l'on passe dans les transports a lui-même augmenté. Donc on passe beaucoup plus de temps à se transporter aujourd'hui qu'au XIXe siècle.
Et nous sommes devenus, dites-vous, des errants toujours loin du lieu où ils doivent aller, où néanmoins il faut qu'ils aillent chaque jour.
Voilà, voilà. Mais alors, une des grandes originalités de Illich, ça a été de ne pas limiter sa critique à des dispositifs techniques comme l'automobile, mais aussi de l'appliquer à des organisations comme l'organisation médicale et l'organisation scolaire. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés de l'école, en fait, Illich lie tout à fait ces difficultés contemporaines de l'école au fait qu'elle est devenue beaucoup trop grosse, énorme. Et qu'elle est devenue aussi tout à fait obligatoire. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens, dans leur vie quotidienne, étaient capables d'apprendre énormément de choses. Et puis, il fallait quand même aller à l'école pour apprendre un certain nombre de choses très particulières, à lire, à écrire, à compter, les savoirs systématiques qui sont liés à l'écriture. Et puis, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'a augmenté ce qu'on peut appeler la délégation éducative, c'est-à-dire qu'au lieu que les enfants aillent à l'école pour apprendre un certain nombre de choses qui ne s'apprennent pas spontanément dans les familles et dans la vie quotidienne, eh bien, l'école a revendiqué un monopole de l'éducation. Et donc, à ce moment-là, les adultes, en général, vont se décharger de leur faculté éducative pour les reporter simplement sur l'école. Et l'école, en situation monopolistique sur l'éducation, en fait, croule sous la charge et n'y arrive plus. Le livre d'Illich, encore une fois, oui, effectivement, auquel vous avez fait référence, Une société sans école en français, c'est un très mauvais titre. Le titre anglais était Deschooling Society. Déscolariser la société, c'était en fait défaire la dépendance absolue de nos sociétés à l'école. Il faudrait qu'on aille à l'école pour apprendre des choses en plus et non pour que ça devienne un passage absolument obligatoire pour faire partie de la société.
Passage obligatoire, passage là encore de plus en plus long, puisque l'école commence de plus en plus tôt et se termine, on ne sait plus exactement quand, elle ne se termine plus véritablement. On a maintenant des processus de formation qui durent tout au long de l'existence.
Oui, effectivement, bon, là, on sort de l'école de plus en plus tard, et puis on pourrait dire, bon, ça y est, on en a fini. Pas du tout, parce qu'il faut régulièrement se recycler, il y a des formations continues, des formations tout au long de la vie. Et en fait, quand on y pense, ça montre bien une direction un peu suicidaire sur laquelle on s'est engagé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il faut sans cesse se former ? Ça veut dire qu'on est en permanence inadapté au monde dans lequel nous vivons. Et là, c'est quand même un paradoxe extraordinaire, parce que la modernité, avec les temps modernes, l'Europe, et puis ensuite l'Europe a entraîné dans son sillage le monde entier, et c'est particulièrement visible aujourd'hui avec la mondialisation, on s'est lancé dans une gigantesque entreprise de transformation du monde pour rendre le monde qui était vu comme pas très bien adapté à l'être humain, pour en faire un monde où justement l'être humain serait plus à l'aise. Et le résultat, c'est alors là encore un très bel exemple de contre-productivité, cette gigantesque énergie qu'on a déployée pour rendre le monde plus agréable aux êtres humains, en fait, on s'aperçoit que c'est un monde où l'homme doit faire de plus en plus d'efforts pour se former. Bon, ce qui veut dire qu'il y correspond de moins en moins.
Et pour s'insérer. Peut-être plus fort encore, c'est la place qu'a pris la santé dans l'existence des gens. Et là encore, c'est quelque chose qu'Illich avait très bien vu et qu'on a, semble-t-il, occulté maintenant.
Oui, alors donc il y a eu l'école et puis il y a eu ce qu'on appelle le système de santé, justement, parce que c'est devenu un système. Et alors évidemment, tout dépend du sens que l'on donne au mot « santé ». Mais le sens, à mon avis, qui est le sens qu'on devrait retenir, qui intéresse Illich, la santé, c'est le fait que un être humain est capable de vivre correctement par ses propres moyens. Et là, on voit aussi se mettre en place un paradoxe énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander aux gens, au nom de leur santé, de se soumettre à énormément d'examens, des réguliers ou de choses comme ça, qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et donc, en fait, on leur demande de s'en remettre à un système qui est là normalement pour assurer leur santé, alors que la santé, ce serait précisément d'être indépendant de ce type de système. Et donc, maintenant, on va passer aussi de plus en plus de temps et dépenser de plus en plus d'argent au service de sa santé, alors que être en bonne santé, ce serait ne pas se préoccuper, être libéré de ce genre de préoccupations.
Il y a quelque chose de morbide, dites-vous, dans cette attitude-là. Et vous soulignez même, Olivier Rey, que les patients qui ont choisi de devenir acteurs de leur propre santé et qui ont choisi d'avoir une posture peut-être un peu plus affirmée face au corps médical, se retrouvent finalement à être encore plus empêtrés dans ce système, en quelque sorte. Ils deviennent des alliés de ce discours qui veut qu'on se préoccupe en permanence de sa santé et que, finalement, le maintien, la préservation de la santé soit une justification à tout, à toutes les inventions, à toutes les tentatives.
Oui, alors là, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que, contre la mainmise du système sur notre propre santé, il y a tout un discours qui se développe, comme quoi c'est à chacun de prendre en charge sa propre santé à travers son alimentation, ses modes de vie, etc. Mais en fait, ça ne nous fait pas échapper au système. En fait, ça correspond plutôt à une intériorisation en chacun de cette préoccupation sanitaire. Et donc, en fait, effectivement, là, le système va coloniser même chaque individu dans son imaginaire même, ce qui fait que, normalement, encore une fois, être en bonne santé, c'est d'une certaine manière ne pas s'en préoccuper, alors que là, ça devient une préoccupation permanente. Et donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé si on est sans cesse en train de se préoccuper de sa santé. C'est complètement contradictoire. Et puis, par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que dans la technologisation galopante de notre monde, aujourd'hui, l'argument de la santé est quelque chose qui est extrêmement employé. Si on prend, par exemple, les nanotechnologies, bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand même, part de plus en plus importante de l'opinion est réticente vis-à-vis de certaines avancées technologiques parce qu'on commence à s'apercevoir que ça n'amène pas forcément un monde meilleur, plus heureux. Bon, les nanotechnologies, on risque d'avoir des résistances. Et alors, que fait-on? C'est qu'on va mettre en avant le fait que grâce aux nanotechnologies, on va pouvoir soigner ceci, on va pouvoir soigner cela. Et alors, en fait, c'est quand même un discours très hypocrite, parce que quand on regarde dans le chiffre d'affaires des nanotechnologies, la part médicale est ridiculement faible. Mais bon, j'ai osé cette expression qui était que la médecine aujourd'hui était la vaseline pour faire passer le suppositoire de l'artificialisation. Et bon, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que à chaque nouvelle technologie, finalement, on va nous mettre en avant des promesses médicales pour nous faire consentir au déploiement tous azimuts de ces technologies.
Alors, le trait commun entre ces trois exemples que nous venons de prendre, Olivier Rey, l'école, la santé, les transports, c'est, vous le disiez, une question d'échelle. C'est le fait que ces trois types d'organisations sont devenus des monstres tentaculaires et monopolistiques. Et cette question d'échelle vous amène à vous retourner vers le passé, ce qu'Illich avait fait aussi en son temps. Un de ses livres s'intitulait « Dans le miroir du passé », c'était un recueil d'entretiens. Se tourner vers le passé pour, à la lumière de ces époques très lointaines, puisque le Moyen-Âge, l'Antiquité grecque et romaine sont convoquées, s'apercevoir de l'idéologie qui est aujourd'hui la nôtre et qui souvent reste invisible à nos yeux mêmes et nous empêche, alors même que nous avons conscience que les problèmes sont nombreux et de plus en plus accablants, nous empêche de trouver les chemins qui nous permettraient de transformer tout ça. Et cette question d'échelle, en effet, me paraît tout à fait essentielle. J'aimerais que vous la développiez.
Alors, oui, il y a une chose qu'Illich aimait bien faire. Illich était, lors de ses études, avait beaucoup lu les auteurs médiévaux. Il était un grand spécialiste du XIIe siècle. Et il disait qu'il aimait bien penser au monde contemporain en se disant qu'il s'adressait à quelqu'un du XIIe siècle qui ne connaissait pas du tout ce monde contemporain et qu'il essayait de lui décrire ce monde contemporain. Il disait que c'était un exercice intellectuel extrêmement salutaire parce que ça permettait de prendre conscience de toutes les singularités de notre monde, puisqu'il fallait les expliquer à quelqu'un qui n'en avait pas du tout l'expérience. Une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Illich était absolument tout sauf un réactionnaire. Et en fait, il y avait quelque chose chez Illich même de très moderne. Enfin, il prenait au sérieux la promesse moderne d'émancipation. Simplement, il se rendait compte que le chemin que l'on avait employé pour, au service de cette émancipation, n'était pas le bon, puisque, au lieu de nous émanciper, il mettait en place une nouvelle aliénation. Et en particulier, un des grands chemins qui a été suivi au cours des derniers siècles pour émanciper l'être humain, c'était le développement de la technique. Et il se rend compte simplement que les moyens techniques, lorsqu'ils dépassent une certaine échelle, au lieu d'être libérateurs, sont aliénants. J'insiste là-dessus parce qu'il pourrait y avoir surtout aujourd'hui, bon, on aime bien classer les gens dans des cases. En fait, c'est vraiment classer Illich dans la case du réactionnaire. On passe complètement à côté du personnage. En fait, c'est quelqu'un qui, au contraire, prend au sérieux, encore une fois, les idéaux modernes d'émancipation, mais se rend compte que la direction sur laquelle qu'on a choisi, au bout d'un moment, n'est pas la bonne. Et alors, une chose qui est aussi absolument fondamentale, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, la question de l'échelle, la question de la taille. C'est-à-dire que énormément de débats aujourd'hui sont complètement stériles parce qu'on va être, alors vis-à-vis de la technique, ça va être pour ou contre la technique. Il doit y avoir les technophiles pour qui il faut accepter n'importe quelle technique. Et puis les technophobes, la technique, c'est le mal. Alors il y en a les uns, il faut faire des centrales nucléaires, toujours plus ceci, toujours plus cela, aller sous la mer, sur les autres planètes, enfin, voilà. Et puis alors les autres, ce serait d'abandonner toute technique. C'est complètement ridicule, puisque de toute façon, l'être humain a un rapport au monde qui passe toujours par des auxiliaires techniques. J'exagère un petit peu. On peut avoir un rapport au monde sans technique, mais la vie humaine mobilise toujours de la technique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que n'importe quelle technique sert la vie humaine. Et vont se rendre compte que certaines techniques sont au service de l'épanouissement humain et certaines autres non.
Le bon outil, dites-vous, c'est celui qui aide l'homme à faire davantage que ce qu'il aurait fait sans cet outil. Le mauvais outil, c'est celui qui se substitue à lui et qui d'une certaine manière, le prive de l'usage de son propre corps.
Bah oui, si on veut prendre un exemple, hein, Illich était très favorable à la bicyclette, mais la bicyclette, c'est un instrument qui nous permet d'aller beaucoup plus vite que lorsque on marche, mais en même temps qu'on fait fonctionner avec ses jambes. Donc en fait, c'est une sorte de démultiplicateur de notre propre puissance. Alors que lorsque l'on passe à la voiture, ce qu'on fait avec nos jambes, c'est juste avec le bout du pied appuyé sur des pédales. Et donc là, on va certes très vite, mais en fait, c'est au prix d'une atrophie de notre corps, qui ne sert plus à rien pratiquement dans cette histoire. Or, en fait, on peut se dire que l'épanouissement humain repose sur le bon usage de l'ensemble de nos facultés. Et alors donc, c'est pour ça qu'on arrive à ces paradoxes, c'est que dans notre monde, on va utiliser la voiture, où on n'utilise pas du tout, pratiquement pas son corps, pour aller à une salle de sport, où on va aller soulever des haltères et courir sur un tapis roulant, parce que le corps réclame, malgré tout, de fonctionner. Bon. Alors est-ce que finalement ce serait pas mieux d'avoir une vie quotidienne qui nous fait utiliser notre corps plutôt que d'avoir une vie quotidienne qui met le corps entre parenthèses et puis il faut aller rattraper le coup ensuite le soir ou le week-end dans des salles de sport?
Me voilà bien embêté, Olivier Rey, parce que je vous avais invité à nous parler de l'échelle et j'aimerais bien quand même qu'on revienne dessus parce qu'à travers l'échelle, il y a la notion de mesure qui me paraît vraiment extrêmement importante. Mais voilà que là, vous êtes en train de nous entraîner vers un autre thème que je trouve également très important. Donc peut-être faut-il commencer par lui. C'est celui de la dissociation. Là, ce que vous avez évoqué, en fait, c'est le fait que la voiture permet d'aller dans un lieu où on va faire un exercice physique, mais qui sera en quelque sorte dissocié d'un but précis dans l'existence. C'est-à-dire, on y va simplement pour faire un exercice, mais on ne fait pas un exercice pour agir, pour aller quelque part, pour construire une maison ou je ne sais quoi. Cette même dissociation, on la retrouve au sein du travail qui a été organisé depuis deux ou trois siècles maintenant, de manière de plus en plus spécialisée, au point que la tâche qu'on exécute est totalement dissociée du reste de l'existence, et en particulier, on ne peut pas y voir un tout. Enfin, si on compare au travail d'un artisan qui commence au début une pièce et qui la fait jusqu'au bout, le fait d'être simplement quelque part sur une chaîne, ça n'a évidemment plus rien à voir. Et cette dissociation se retrouve quand même à plusieurs reprises.
Oui, oui, tout à fait. Mais on est quand même aussi dans les questions d'échelle, parce que, comme je disais, dans la technique, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique, mais voir que certaines techniques servent l'être humain et d'autres, au contraire, l'aliènent. Pour la division du travail, par exemple, c'est la même chose. Être contre toute division du travail est totalement absurde. Si moi, je devais me fabriquer des chaussures, ce serait de très mauvaises chaussures et j'aurais extrêmement mal aux pieds. Il est très très bien qu'il existe des cordonniers qui fassent les chaussures, des boulangers qui fassent du pain, etc., plutôt que chacun essaye de faire tout par lui-même et le fasse mal. Après, ce qui s'est passé depuis un certain nombre de siècles, c'est effectivement, on s'est dit qu'on allait sans cesse faire augmenter la productivité générale en spécialisant toujours plus les tâches, en allant toujours plus loin dans la division du travail. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, on augmente la productivité, mais d'un autre côté, on retire énormément de sens aux tâches que nous accomplissons. Et est-ce que véritablement, ça vaut le coup de faire un tel sacrifice dans le sens de notre travail pour récupérer simplement en bout de chaîne plus de biens de consommation? Est-ce que le surcroît de consommation compense tout ce qu'on a perdu en rentrant dans cette division du travail à outrance? Et là, vous voyez que la réponse, c'est pas de division du travail ou bien la division du travail poussée toujours plus loin, c'est une forme d'équilibre à trouver. Et ce qui se passe, c'est que certainement aujourd'hui, le curseur a été déplacé trop loin du côté de la division. Mais c'est quand même là, encore une fois, une question de mesure. Et donc, voilà, ce type de question a un lien avec la grande question de la mesure, de la bonne échelle.
Je crois que ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre livre, Olivier Rey, une question de taille, c'est le fait que, à Terre à Terre, on s'intéresse évidemment et logiquement beaucoup aux dégâts qui sont causés à l'environnement, à la planète, au milieu dans lesquels nous vivons. Mais de fait, dans votre livre, vous insistez énormément sur les dégâts que ce même processus a créés au sein de chacun et au sein des sociétés. Les humains, les sociétés ont été extrêmement atteints et transformés, corrodés par ce processus. Et justement, cette question de mesure intervient énormément pour nous faire comprendre de quelle manière nous avons été blessés, je crois.
Ce qui est clair, c'est que de toute façon, une vie humaine, elle ne peut s'accomplir, s'épanouir et être féconde que dans un rapport sain à notre habitat, à la Terre. Je cite une métaphore de l'Iliade que je trouve très instructive de ce point de vue-là. C'est Ajax, qui est le grand guerrier qui combat à la tête des Grecs en l'absence d'Achille. Et on dit que contre les vagues troyennes qui déferlent, Ajax tenait comme le rocher contre la marée. Et alors, ce qui est assez amusant, parce que dire qu'un rocher résiste à la marée, c'est de l'anthropomorphisme. Le rocher, il résiste pas à la marée, il est là, il y a la marée, bon. Mais donc, en fait, voir le rocher comme une résistance à la marée, ça veut dire que l'homme se projette dans le rocher. Mais d'un autre côté, il va comprendre son propre comportement en se comparant à la pierre. Et en fait, à travers cette métaphore qui va donc dans les deux sens, on projette de l'humain dans les choses. Et en
donc on fait du pétromorphisme, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. Et on se comprend soi-même en se comparant à des éléments naturels. Là, c'est un rocher, ça peut être aussi des animaux, des plantes, etc. En fait, on voit que l'être humain est en perpétuel dialogue avec son milieu. Et que s'il est dans un milieu qui est complètement dégradé, en fait, lui-même va devenir déchet. C'est-à-dire que le devenir déchet du monde prépare le devenir déchet de l'être humain lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il se joue quelque chose d'absolument fondamental dans notre rapport au milieu. D'ailleurs, vous avez employé quand même un mot qui m'a fait un peu sursauter, c'est celui de planète, parce que je suis vraiment très, très opposé à l'emploi de ce mot planète. Et en revanche, le titre de l'émission Terre à Terre est très, très beau, mais justement, on ne peut pas dire planète à planète. C'est-à-dire que quand on parle de la planète aujourd'hui, c'est très, très à la mode. En fait, c'est planète en grec, ça veut dire astre errant. Mais donc, en fait, c'est un point de vue astronomique sur la Terre. En fait, la planète, c'est ce que voient les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace. Et puis, ils regardent et ils voient la Terre en tant que planète. Mais nous n'habitons pas sur une planète, nous habitons la Terre. Et toujours parler de planète, c'est toujours, d'une certaine manière, s'être déjà, comme si on s'était déjà abstrait de notre milieu, alors que précisément ce dont nous souffrons, c'est de ce type d'abstraction qu'il faut au contraire réapprendre à vivre sur la Terre et avec elle.
Et alors, comment réapprendre alors que nous avons tant désappris et pendant si longtemps?
Eh bien, c'est pour ça que je me suis concentré sur cette question de taille. Je pense que la question des échelles est absolument fondamentale. Et qu'on a tendance, à considérer en général que le bien ou le mal, ce sont des absolus, alors que souvent le bien et le mal ne tiennent qu'à des questions de dosage. Prenez la même substance, selon son dosage, elle peut être un poison ou au contraire un médicament. Et c'est la même substance. Alors, est-ce que la substance est mauvaise ou bonne? Non, c'est pas la substance qui est mauvaise ou bonne, c'est son dosage qui va faire qu'elle est bonne ou mauvaise. Et en fait, dans énormément de choses, on va se retrouver avec ce même type de situation. Est-ce que la ville est bonne ou mauvaise? Quelle taille, par exemple? Enfin, vous voyez.
Alors, ce qui est curieux, c'est que quand vous posez la question comme ça, on trouve ça presque incongru. Mais en fait, c'était des questions qui se posaient en permanence. Justement, vous citez énormément d'exemples, de Platon à Aristote, tout le monde s'interrogeait sur la bonne taille, la bonne mesure, la juste échelle. C'était quelque chose qui était dans toutes les conversations, pratiquement.
Les philosophes antiques étaient très très conscients de l'importance, effectivement, de la taille. On peut dire que même les philosophes modernes l'ont été jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, dans le domaine politique, Montesquieu et Rousseau, par exemple, quand ils se réfléchissaient au bon régime, la question de l'échelle était extrêmement importante pour eux. Et puis, c'est à partir, je dirais, du 19e siècle, il y a une sorte de catastrophe qui se produit, où, en fait, la taille va complètement passer à l'arrière-plan, on ne va plus du tout en parler. Et alors, du coup, on manie des grands concepts comme cela, qui ne veulent, à mon avis, plus rien dire si on ne prend pas en compte la question de la taille. Alors, on peut prendre différents exemples. On parle des sociétés humaines, mais on emploie le même mot « société » pour une tribu de chasseurs-cueilleurs ou bien pour nos gigantesques sociétés contemporaines, alors que les deux types de groupements humains n'ont rien à voir. On emploie le même terme de « démocratie » pour parler du régime politique d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, où il y avait 20 ou 30 000 citoyens. Et puis l'Inde contemporaine, où il y a plus d'un milliard de personnes et 700 millions de votants, je crois, aux élections. Et comme s'il y avait une essence de la démocratie, si vous voulez, qui était totalement indépendante de l'échelle à laquelle ça se place. Alors qu'en fait, quand on change tellement d'échelle, de toute façon, ça ne peut plus être la même chose. Et donc employer le même terme de démocratie ou de société dans les deux cas, ça égare la pensée au lieu de l'éclairer. C'est vraiment une hygiène de pensée à avoir. C'est d'abord de toujours de penser les choses en précisant à quelle échelle on se place.
À la question de l'échelle, on peut associer un autre terme qui est celui de limite. Parce que qui commence à chercher quelle est la bonne échelle cherche aussi quelles sont les limites. Et de fait, les limites sont ce qui peut-être s'est le plus transformé, en tout cas a basculé, entre la notion de limite qui était celle des Athéniens et les notions que nous avons aujourd'hui des limites. Il y a un retournement de situation complet.
C'est-à-dire que dans la philosophie grecque, la limite, c'était ce qui faisait exister une chose. C'était pas un endroit où la chose s'arrêtait, c'était ce qui lui donnait une forme et donc ce qui lui donnait son être. Alors que dans la perspective moderne, la limite, c'est ce qui vient contraindre une chose, qui l'empêche d'aller toujours plus loin. Il y a un très beau symbole de ce point de vue-là, de ce retournement, c'était que Hercule était censé avoir, en plantant ses colonnes à Gibraltar, avoir écrit « nec plus ultra », enfin en latin, il a dû écrire en grec, mais bon, peu importe. Enfin, donc on a là cette formule qu'on associe justement à Hercule, le « nec plus ultra », pas plus loin. Et puis c'est Charles Quint qui a pris pour devise de son empire « plus ultra, plus loin ». Et donc là, on a un très très beau symbole de ce passage entre la conception antique, qui était que c'était par la limite qu'on faisait exister les choses, à la conception moderne, qui était que la limite était toujours une entrave dont il fallait se libérer. Bon, et puis je pense que ce qui a joué aussi, c'est quelque chose de dramatique qui s'est passé à l'époque moderne. C'est une fracturation qui s'est produite en philosophie, où ce qu'on appelait autrefois la philosophie naturelle s'est émancipé, et on s'est mis à appeler ça la science. Et à ce moment-là, les philosophes qui ont été exilés de la science ont eu tendance à penser que tout ce qui était quantitatif, ça ne les concernait pas, c'était l'affaire des scientifiques. Et donc, à partir de ce moment-là, les philosophes se sont complètement désintéressés de toutes ces questions d'échelle, de taille, de quantité. Ils voyaient ça comme quelque chose de subalterne et d'un peu sale. Et donc, ils se sont mis à manier du concept, mais sans se préoccuper de mettre en relation les concepts qu'ils maniaient avec des questions quantitatives. Si on pense au concept de l'homme, par exemple, un philosophe, il va vous dire que l'homme, bon, c'est de la liberté, c'est ceci, c'est du langage, c'est ceci, cela. Il n'y a personne, aucun philosophe qui vous dira que un homme, c'est un être vivant qui fait entre 1,50 m et 2 m. On dira que ce n'est pas philosophique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que notre expérience du monde, elle est fondamentalement liée au fait qu'on a cette taille-là. Notre organisation corporelle, etc., elle est fondamentalement liée au fait qu'on a cette taille-là. Et moi, je milite pour le fait de rapatrier la taille à l'intérieur de l'essence. C'est-à-dire que la taille, ce n'est pas un paramètre. On n'a pas des essences qui ensuite vont s'incarner de manière complètement arbitraire à telle ou telle échelle. Non, la taille fait partie de la définition des êtres.
Mais Olivier Rey, c'est pas seulement la taille qui a disparu au moment où la philosophie s'est détournée de tout ce qui était quantification. C'est presque, me semble-t-il, l'ensemble du corps humain qui a disparu, puisque pendant que la philosophie commençait à regarder ailleurs, le monde, lui, s'est mathématisé. Galilée a compris que le langage de l'univers était mathématique, en quelque sorte. Et vous allez nous expliquer de quelle manière. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, en quelques dizaines d'années à peine, la mesure et les mesures se sont mises à évoluer. On est passé de mesures qui étaient le pied, le pouce, enfin des mesures du corps, à des centimètres, des mètres, des millimètres et des nanomètres maintenant.
Oui, oui, tout à fait. Ben là, dans le système métrique, enfin, et tous ces nouveaux systèmes de mesure normalisés, là, c'est un très, très bon exemple de la perte de la mesure humaine. Cela étant, sur Galilée, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, on peut dire, oui, voilà, tout ça, c'est la mathématisation du monde qui en est responsable. Mais Galilée lui-même, à la fin de sa vie, s'était rendu compte à quel point l'échelle était quelque chose d'absolument déterminant. Et il s'en était rendu compte par les mathématiques. Bon, c'est vrai que moi, j'ai fait pratiquer beaucoup les mathématiques, et c'est par les mathématiques que je suis devenu particulièrement sensible à ces questions d'échelle. Le dernier livre de Galilée, qui est écrit sous forme de dialogue, commence par une visite des arsenaux de Venise. Et en fait, ce dont se rendent compte les personnages qui visitent cet arsenal de Venise, c'est qu'un petit bateau n'a pas la même forme qu'un grand bateau.
C'est-à-dire n'a pas la même résistance, surtout.
C'est-à-dire que si on veut qu'un bateau résiste au flot, on peut construire une barque qui va résister au flot. Mais si on veut faire un grand bateau, eh bien, on ne peut pas le construire exactement pareil que la barque, simplement en multipliant ses dimensions par 10, 20, 50 ou 100, parce qu'à ce moment-là, à la première vague, la barque se cassera. Et là, à ce moment-là, Galilée se rend compte que justement, le monde n'est pas invariant par changement d'échelle. Et quand on construit, par exemple, on est obligé de tenir compte de l'échelle, parce qu'on ne peut pas simplement faire grand. Les grandes choses ne sont pas pareilles que les petites, simplement, qu'on aurait dilatées. Bon, et ça tient à ce qu'en mathématiques, on va appeler des phénomènes de non-linéarité. Le monde n'est pas invariant par homothétie, par changement d'échelle. Et une des choses que montre Galilée, parce qu'il aime bien donner des exemples, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir peur des géants qu'il y a dans les contes, qui font 20 mètres de haut, parce qu'il montre par des calculs très simples de résistance des matériaux, que les géants des contes, eh bien, au premier pas qu'ils font, ils se cassent la jambe parce que les os qu'ils auraient, si simplement c'était la multiplication par 10 de nos propres os, ils seraient incapables de supporter leur poids. Parce que, vous voyez, quand vous multipliez toutes les dimensions par 10, la section des os, elle va être multipliée par, c'est des surfaces, elle va être multipliée par 100. Mais en revanche, la masse, c'est un volume, elle est proportionnelle au volume, et donc elle va être multipliée par 1000. Et donc, si vous êtes capable d'avoir quelque chose de 1000 fois plus gros avec des os qui ont une section qui a été multipliée que par 100, eh bien, en fait, ça ne tient pas. Et donc, le géant s'écroule. Et c'est là où on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que l'être humain, il fait quelque chose comme entre 1m50 et 2m, et il ne peut pas être beaucoup plus petit, et il ne peut pas être beaucoup plus grand non plus. Et c'est pour ça que cette taille-là, elle fait partie de l'essence de l'être humain. Et ça, c'est vrai pour absolument tous les animaux. Quand on parle d'un animal, il faudrait toujours commencer par dire quelle est sa taille.
Reste, Olivier Rey, qu'aujourd'hui, les géants n'ont pas d'eau. Ce sont des organisations, ils ont des acronymes, ils ont des sigles, des logos, ou alors ce sont des gouvernements surpuissants. Et de fait, puisque vous aviez commencé cet entretien en parlant de la démesure d'un certain nombre de nos organisations humaines, aujourd'hui, la difficulté consiste à trouver un moyen de redescendre de ce gigantisme sous lequel nous vivons écrasés.
Oui, alors donc on peut faire la métaphore, justement quand je parlais du géant qui au premier pas s'écroulait, on pourrait dire que nos organisations, elles en sont aujourd'hui un peu là. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont devenues tellement grosses qu'elles sont devenues impotentes. Et donc c'est ça qui donne un sens aujourd'hui au terme décroissance dans beaucoup de domaines. Alors le terme décroissance est un peu ennuyeux d'un certain côté parce qu'il a ce côté négatif et puis on dit la vie c'est de la croissance, donc la décroissance c'est contre la vie, enfin il y a quelque chose d'un peu embêtant.
Il est curieux dans votre livre, il apparaît au bout de 200 pages seulement.
Oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait pour moi le principe fondamental c'est celui de la bonne proportion. Il faut être ni trop gros, ni trop petit. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, de manière conjoncturelle, comme dans beaucoup de domaines, on pêche, non pas par défaut, mais par excès, nos organisations sont obèses et pas trop maigres, il se trouve que conjoncturellement, ce qu'il faut, c'est décroître en taille. Mais il ne faut pas oublier que cette décroissance en taille, qui a l'air d'être quelque chose de négatif, il y a du négatif dans décroissance, en fait, c'est relié à un positif, qui est celui de la recherche de la taille adéquate. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a le principe intemporel, on pourrait dire, qui est celui de la taille adéquate, qui se traduit conjoncturellement aujourd'hui par une demande de décroissance pour revenir à des tailles qui soient mieux proportionnées. Voilà. Léopold Kohr, qui a été quelqu'un qui a beaucoup inspiré Ivan Illich, avait une phrase absolument extraordinaire où il disait « à chaque fois que quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros ». Bon, c'est une phrase qui est très frappante, que j'aime beaucoup, bon, mais en même temps qui est fausse, parce qu'il y a des tailles... Les choses
le trop petit existe aussi.
Oui. Voilà. Il ne faut pas non plus tout ramener à des questions de taille. Les questions de taille, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'attirer l'attention sur les questions de taille parce qu'elles sont ordinairement négligées. Mais je ne veux pas non plus dire que tout est une question de taille. Je n'ai pas cette prétention. Et puis, par ailleurs, même pour ce qui est des questions de taille, parfois, les choses ne vont pas parce qu'elles sont trop petites. Cela étant, la phrase de Kohr a une immense vertu, c'est quand même d'attirer notre attention sur un problème qui est très important à notre époque, c'est que beaucoup de choses ne vont pas, effectivement, parce qu'elles sont trop grosses.
Eh oui, mais quand vous dites ramener les choses à la bonne taille, à la bonne mesure, à la juste proportion, Olivier Rey, le problème n'est pas résolu, il commence. Il commence, puisqu'aujourd'hui, comment s'entendre, humains que nous sommes, sur ce que seraient les justes proportions, ce que serait la juste taille. Vous le dites, on n'a plus de notions communes, collectives, de ce qu'est le bien, par exemple. Nous n'avons plus à la place que des conceptions du bien. Nous avons des valeurs. Et donc, lorsque nous nous réunissons pour essayer de discuter et de débattre, eh bien, c'est plutôt pire que si on n'avait pas débattu. Vous allez même jusqu'à regretter qu'on fasse plus de danse de la pluie. Vous exagérez quand même. Non, même si la danse de la pluie, ça peut être très beau.
Non, je disais simplement que... Non. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'on se moque beaucoup des danses de la pluie, mais qu'on devrait avoir un peu moins de condescendance parce que nous, aujourd'hui, l'équivalent de nos danses de la pluie, c'est les débats. Et on fait comme si des débats allaient sortir les solutions, alors qu'en général, quand on fait des débats, il n'en sort rien. Et c'est
bon, et que voilà. Les danses de la pluie, elles, au moins, soudaient les populations.
Voilà, exactement. Alors qu'en général, les débats ne font qu'aggraver les différends. Et donc, en fait, finalement, oui, je trouve que les danses de la pluie, si elles n'étaient pas efficaces, en tout cas, elles n'avaient pas les inconvénients. Les débats d'aujourd'hui ne sont guère plus efficaces et en plus, ils ont plutôt tendance à envenimer les choses. Mais enfin, bon, non, effectivement, moi, l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, si on prend la trajectoire sur laquelle nous sommes et que nous essayons de la prolonger au long du XXIe siècle, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Donc de toute façon, à un moment donné, les choses ne vont pas continuer sur leur lancée comme elles le sont. Et moi, ce que je subodore, c'est qu'un certain nombre d'organisations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, de toute façon, vont s'effondrer comme les géants trop gros s'effondrent. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra de toute façon nécessairement en revenir à des types d'organisations à une autre échelle. Mais ça ne sera pas le fruit d'une décision, ce sera les événements qui nous conduiront à cela. Alors, d'un côté, vous dites, oui, alors voilà, du coup, vous êtes dans une perspective catastrophiste. Mais peut-être, mais je ne vois pas ces catastrophes-là comme étant des choses forcément négatives. Au contraire, on s'aperçoit aujourd'hui précisément que parce que notre monde fonctionne à une échelle beaucoup trop grande, nous avons perdu une totale maîtrise sur les événements. Nous sommes dans un processus, nous sommes dans une sorte d'avalanche, et de toute façon, on ne peut rien y faire. Et précisément, il faut en passer par un certain nombre d'effondrements pour nous rendre à nouveau une certaine liberté d'action. Alors, c'est pour ça qu'on a un rapport aujourd'hui, d'ailleurs, très ambigu à la catastrophe. Parce que d'un côté, on voit bien que ça risque de produire de terribles dégâts. Et ça, il ne faut pas s'illusionner là-dessus. Effectivement, les risques sont extrêmement grands. Mais en même temps, il y a le côté positif qui est de nous faire sortir du tunnel dans lequel nous sommes pour nous rendre aussi une certaine latitude d'action. Moi, je suis très frappé d'ailleurs par le grand succès des films catastrophes. Et on a un rapport très, très ambigu parce qu'aujourd'hui, à la catastrophe, c'est à la fois ce que nous redoutons le plus pour les énormes dégâts qui peuvent en découler, et en même temps ce que, au fond de nous, nous attendons pour retrouver une manière de vivre à laquelle nous aspirons. D'ailleurs, c'est très frappant de voir dans les films catastrophes à quel point, justement, tous les plus grands dispositifs techniques, ben, justement, s'effondrent. Et à ce moment-là, les êtres humains sont rendus à des choses extrêmement fondamentales, la débrouillardise, l'amitié, etc. Et finalement, il s'avère que même si les circonstances sont très difficiles, ils sont plus heureux.
Ce que vous dites, Olivier Rey, c'est qu'il faut acquiescer à une forme de renoncement, ce que Illich lui-même disait aussi. Il ne faut pas vouloir agir parce que ce serait encore être dans une forme de pouvoir et de... Ça serait, dites-vous, de nouveau une passion triste parce que confronté à quelque chose qui nous dépasse, de toute façon, nous n'y arriverons pas. Et donc, plutôt que d'essayer d'empêcher cet effondrement, être dans l'existence aujourd'hui, en espérant qu'il y aura un demain.
Oui, enfin, un grand risque que voyait Illich, c'était que quand le projet général commence à mal tourner, en fait, on va essayer d'organiser un sauvetage tout aussi général. Et en réalité, on ne fait que continuer le problème puisqu'on se situe toujours à la même échelle, d'échelle toujours plus grande. Donc maintenant, il faut sauver la planète. Alors que, comme disait Illich, moi, je n'habite pas la planète. J'habite à un endroit sur la Terre. Je ne suis pas un habitant de la planète. La planète n'est pas à notre mesure. Et plus on nous parle de la planète, finalement, plus on nous déracine de l'endroit où nous habitons. Alors en même temps, on ne peut pas faire abstraction non plus du monde dans lequel nous sommes, qui aujourd'hui vit à cette échelle planétaire. Moi, je pense que ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est essayer aujourd'hui de réhabiter à l'endroit où nous sommes le monde un petit peu mieux, de manière plus locale. Et ce qui nous permettra, quand un certain nombre d'effondrements arriveront, moi, j'en suis convaincu qu'ils arriveront, de ne pas paniquer, de ne pas prendre cela comme la fin du monde, mais comme les craquements d'un monde qui n'allait pas bien et quelque chose qui pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y trouverez toutes les références concernant le livre d'Olivier Rey, Une question de taille, publié chez Stock. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire et, en gratification, une interview de Guillaume Gamblin qui nous parle de la revue Silence consacrée, figurez-vous, ce mois-ci aux questions de taille. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre, qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Cédric Châtelut, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.